14, du soin de l'État, pour la sûreté du point de vue de la situation, à donner aux personnes, qui ne sont pas en pleine possession des forces naturelles, ou du manmuri, de l'humanité, des mineurs et des insensés. Observation générale sur ce chapitre, et les quatre précédents. Chapitre 14, 2. Et c'est sur les limites de l'action de l'État. Par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835. Traduit de l'allemand, par Henri Chrétien en 1867. Tous les principes que j'ai essayé d'établir jusqu'ici supposent l'homme en pleine possession de ses facultés intellectuelles, dûment mûri. En effet, tous s'appuient sur ceci, qu'il ne faut jamais enlever à l'homme qui pense, et qui agit par lui-même, la faculté de se déterminer librement, après un examen suffisant de tous les motifs de réflexion. Ces principes ne peuvent donc pas s'appliquer aux personnes, qui sont privées d'une partie, ou de l'intégralité de leur raison, telles que les aliénés ou les fous, ni, à celles dont l'intelligence n'a pas encore atteint cette maturité, qui dépend de la maturité du corps lui-même. En effet, si peu déterminée, et à dire vrai, si fausse que soit cette règle, c'est pourtant la seule, qui communément, et pour le jugement des tiers, puisse être valable. Toutes ces personnes ont besoin que l'on prenne un soin positif de leur bien physique et moral, dans le sens le plus exact du mot. Pour elles, le maintien purement négatif de la sûreté ne peut suffire. Pour commencer par les enfants, qui composent la classe la plus nombreuse et la plus importante de ces personnes, ce soin, en vertu des principes du droit, appartient en propre à certaines personnes déterminées, aux parents. Leur devoir est d'élever jusqu'à l'âge de parfaite maturité les enfants, auxquels ils ont donné le jour, et de ce devoir unique naissent, comme condition nécessaire de son accomplissement, tous les droits des parents. Les enfants gardent donc tous leurs droits originels, sur leur vie, sur leur santé, sur leur fortune, s'ils en possèdent. Et leur liberté même ne doit être restreinte, qu'autant que les parents le jugent nécessaire, soit pour leur éducation, soit pour le maintien du rapport de famille nouvellement créé, et entend seulement que cette restriction ne comprend que le temps exigé pour leur développement. Les enfants ne doivent jamais se laisser imposer de force des actes, dont les conséquences directes s'étendent au-delà de cet âge, et peut-être sur la vie entière, comme par exemple le mariage, ou le choix d'un mode de vie déterminé. Quand arrive l'âge de la maturité, l'autorité des parents doit tout naturellement cesser. Généralement, les devoirs des parents envers leurs enfants consistent à les mettre en état d'embrasser un mode de vie suivant leur libre choix, limité toutefois par leur situation particulière, et ceci d'une part en prenant soin personnellement du bien physique et moral de l'enfant, et d'autre part en mettant à disposition tous les moyens nécessaires. D'un autre côté, le devoir des enfants est de faire tout ce qui est nécessaire pour que les parents puissent accomplir ce devoir. Je passe surtout ce qui est de détail sur l'énumération de tout ce que ces devoirs peuvent avoir et ont nécessairement de déterminer en eux. Ceci appartient à la théorie de la législation, proprement dite, et ne pourrait même pas entièrement y trouver place, car tout cela dépend en grande partie des circonstances individuelles de chaque situation particulière. Maintenant, l'État doit prendre soin d'assurer à l'encontre des parents les droits des enfants. Tout d'abord, il lui faut déterminer l'âge légal de la majorité. Cet âge doit varier non seulement avec les différents climats et les différentes époques, mais encore les situations individuelles, exigeant plus ou moins de maturité de jugement, peuvent légitimement avoir sur ce point de l'influence. Ensuite, l'État doit empêcher que la puissance paternelle ne dépasse ses bornes. Il doit la surveiller le plus exactement possible. Toutefois, cette surveillance ne doit jamais tendre à prescrire positivement aux parents un mode déterminé d'éducation pour leurs enfants. Mais elle doit avoir sans cesse pour but négatif de maintenir mutuellement les parents et les enfants dans les limites qui leur sont fixées par la loi. Par suite, il ne paraît ni juste, ni salutaire de demander un compte détaillé et perpétuel aux parents, il faut s'en fier à eux, et croire qu'ils ne négligeront pas un devoir si proche de leur cœur. Il n'y a que les cas, où l'oubli de ses devoirs se produit, ou est près de se produire, qui puisse autoriser l'État à se mêler de ses rapports de famille. Après la mort des parents, les principes du droit naturel nous apprennent moins clairement à qui incombe le soin d'achever l'éducation des enfants. L'État doit donc dire positivement qui dans la parenté devra prendre la tutelle, ou si aucun d'eux n'est en état de se faire, comment un autre citoyen devra être choisi pour l'exercer. Il doit aussi déterminer les conditions de capacité nécessaires aux tuteurs. Comme les tuteurs prennent la place des parents, ils en acquièrent tous les droits. Mais comme dans tous les cas, ils sont dans un rapport moins étroit avec leurs pupilles, ils ne peuvent prétendre à une confiance égale, et l'État doit redoubler de surveillance à leur égard. Ils doivent être à chaque instant soumis à une perpétuelle obligation de rendre des comptes. Moins l'État exerce directement une influence positive, plus il reste fidèle aux principes ci-dessus développés. Ainsi, il doit rendre le choix d'un tuteur, ou par les parents mourants, ou par les proches survivants, ou par les communes auxquelles les pupilles appartiennent, aussi facile que le permet le soin pour la sûreté de ces derniers. En général, il est excellent de confier les détails de surveillance aux communes. Les règles qui les dirigeront, non seulement s'adapteront mieux à la situation individuelle des pupilles, mais encore, elles seront plus variées et moins uniformes. Et il sera toujours suffisamment pourvu à la sûreté des pupilles si la haute surveillance reste entre les mains de l'État lui-même. Outre ces dispositions, l'État ne doit pas se contenter de protéger les mineurs contre les autres citoyens, contre les attaques extérieures. Il doit aller plus loin. On a établi plus haut que chacun peut librement disposer de ses actes et de ses biens à sa guise. Une semblable liberté laissée aux personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité du jugement pourrait être dangereuse à plus d'un point de vue. Le soin d'écarter ces dangers incombe aux parents ou aux tuteurs qui ont le droit de diriger les actions des mineurs. Mais l'État doit venir à leur secours et au secours des mineurs eux-mêmes en déclarant nuls ceux de leurs actes dont les conséquences leur seraient nuisibles. Par suite, il doit empêcher que les vues égoïstes des autres hommes ne les trompent ou ne surprennent leur volonté. Lorsque cela se produit, l'État ne doit pas se contenter de contraindre l'auteur à réparer le dommage causé, il doit encore lui infliger une peine. Certaines actions pourraient, à ce point de vue, devenir punissables, bien qu'en général, elles fussent en dehors du domaine de l'action de la loi. Je citerai comme exemple le concubinage, dont, suivant ses principes, l'État devrait punir le responsable quand il est entretenu avec une personne mineure. Mais comme les actions humaines exigent un degré de jugement très divers, et que la maturité de l'intelligence vient petit à petit, il est bon de déterminer, pour la validité de ces différents actes, différentes époques et différents degrés dans la minorité. Ce que l'on vient de dire des mineurs s'applique encore aux aliénés et aux insensés. La seule différence qui existe est qu'ils ont besoin, non d'éducation ou de culture, à moins que l'on ne donne ce nom aux efforts à tenter, pour les guérir, mais seulement de soins et de surveillance. Qu'il faut empêcher le dommage qu'ils pourraient causer à autrui, et que communément, ils sont dans un état tel qu'ils ne peuvent jouir ni de leurs facultés, ni de leurs biens. Mais il ne faut pas oublier que, comme leur retour à la raison est toujours possible, on peut bien leur enlever l'exercice temporaire de leurs droits, mais non ces droits eux-mêmes. Le plan que je me suis proposé ne me permet pas de donner à ceci plus de développement, et je puis clore entièrement cette matière en formulant les principes généraux suivants. Un degré, les personnes qui ne sont pas du tout en possession de leurs facultés intellectuelles, ou qui n'ont pas encore atteint l'âge nécessaire, nécessitent un soin particulier pour leur bien physique, intellectuel et moral. Ces personnes sont les mineurs et les aliénés. Parlons d'abord des premiers, ensuite des seconds. 2 degrés en ce qui concerne les mineurs, l'État doit fixer la durée de la minorité. Comme, sous peine de produire des inconvénients très importants, elle ne doit être ni trop courte, ni trop longue, l'État doit la déterminer suivant les circonstances particulières où se trouve la nation, et pour cela, le développement complet du corps peut lui servir de signe approximatif. Il est judicieux d'établir plusieurs périodes, d'augmenter la liberté des mineurs, et de diminuer graduellement la surveillance qu'on exerce sur eux. 3 degrés, l'État doit veiller à ce que les parents remplissent exactement leurs devoirs envers leurs enfants, c'est-à-dire de les mettre en état, autant que le permet leur situation, de choisir et d'embrasser un mode de vie individuel lors de leur majorité, et à ce que les enfants remplissent aussi exactement leurs devoirs envers leurs parents, c'est-à-dire qu'ils fassent tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement du devoir des parents. Il doit faire que nul n'outrepasse, pour autant, les droits que lui donne l'obligation d'accomplir ce devoir. L'État doit borner là sa surveillance et tout effort de sa part, tendant à atteindre un but positif, par exemple à favoriser tel ou tel mode de développer les facultés des enfants, est en dehors des limites de son action. 4 degrés en cas de mort des parents, des tuteurs sont nécessaires. Par suite, l'État doit déterminer le mode suivant, lequel ils seront établis, de même que les qualités qu'ils devront nécessairement posséder. Mais il ferait bien d'en demander l'élection, autant que possible aux parents de leurs vivants, au reste de la famille, ou à la commune. La conduite des tuteurs requiert une surveillance encore plus stricte et doublement active. 5 degrés pour promouvoir la sûreté des mineurs, et, pour empêcher qu'on exploite à leur préjudice, leur inexpérience ou leur légèreté, l'État doit déclarer nuls les actes accomplis dont les conséquences pourraient leur être nuisibles, et punir ceux qui emploient ces moyens, pour favoriser leurs propres intérêts. 6 degrés, tout ce qu'on vient de dire des mineurs s'applique aussi, à ceux qui sont privés de leur intelligence, sauf les différences qui ressortent de la nature même des choses. On ne doit jamais considérer personne comme insensé, avant qu'il n'ait été formellement déclaré tel, après un examen, fait par des médecins sous la surveillance du juge. Et le mal lui-même doit toujours être considéré comme pouvant disparaître. J'ai maintenant passé en revue tous les objets sur lesquels l'État peut étendre son action. J'ai essayé, à propos de chacun, de poser les principes ultimes. Si l'on trouve cet essai trop défectueux, si l'on y cherche beaucoup d'importantes matières de législation qui sont passées sous silence, qu'on se souvienne que mon plan n'était pas d'exposer une théorie de la législation, ce serait là un ouvrage auquel ne suffirait ni ma force, ni mon savoir, mais seulement de déterminer la mesure suivante, laquelle la législation dans ses branches diverses doit étendre ou restreindre l'action de l'État. En effet, comme on peut classer la législation suivant ses objets, de même, on peut la diviser d'après ses sources. Peut-être cette dernière classification est-elle la plus profitable, surtout pour le législateur lui-même. Ses sources, ou pour m'exprimer avec plus de propriété et de justesse, les points de vue principaux d'où se démontre la nécessité des lois, se réduisent, si je ne me trompe, à 3. La législation, en général, doit définir les actes des citoyens et leurs conséquences nécessaires. Le premier point de vue par suite est la nature même de ces actes et celle de leurs conséquences qui découlent uniquement des principes du droit. Le second point de vue concerne spécialement l'État. Ce sont les bornes dans lesquelles il décide de renfermer son action ou l'étendue du champ qu'il veut lui donner. Le troisième point de vue enfin s'occupe des moyens dont il a nécessairement besoin pour maintenir debout l'édifice étatique tout entier, pour mettre la société à même d'atteindre son but. Toute loi imaginable se rattache forcément à l'un de ces points de vue. Mais aucune ne doit être édictée sans qu'ils soient réunis, et c'est précisément ce caractère exclusif de l'intention du législateur qui rend tant de lois défectueuses. Ce triple dessin rend par-dessus tout nécessaire, pour toute législation, trois sortes de travaux préparatoires. 1 degré, une théorie du droit complète et générale. 2 degrés, une détermination nette du but que l'État devrait se proposer, ou, ce qui au fond est la même chose, une fixation exacte des limites dans lesquelles il doit renfermer son action. Ou bien une exposition du but particulier que se propose, en réalité, telle ou telle société. 3 degrés, une théorie des moyens nécessaires à l'existence de l'État, et comme ces moyens tendent à renforcer ou à rendre possible l'action de l'État, une théorie de la science politique et financière. Ou bien l'exposition du système politique et financier une fois qu'il a été choisi. Dans ce court aperçu, qui permet plusieurs subdivisions, j'observe que seul le premier des points de vue signalés est éternel et immuable comme la nature même de l'homme, tandis que les autres peuvent donner prise à certaines modifications. Toutefois, si ces modifications se produisent non, en vertu de raisons entièrement générales ou admises, à peu près, par tout le monde, mais en vertu d'autres circonstances fortuites, si par exemple, il existe dans l'État un système politique bien affermi, des institutions financières inaltérables. S'il en est ainsi, le second de ces points de vue présente de graves embarras, et fait très souvent que le premier en souffre. On trouverait certainement la cause de la ruine de bien des États dans des collisions de cette nature. J'espère avoir assez nettement fait connaître le plan que je me suis proposé en essayant d'exposer ces principes de législation. Mais, même dans ces limites étroites, je suis loin de me flatter d'avoir réussi dans ce dessein. Peut-être la justesse des principes exposés n'a-t-elle dans son ensemble à redouter que peu d'objections, mais certainement cette exposition n'est ni aussi complète, ni aussi nettement déterminée qu'il le faudrait. Même pour établir les principes les plus élevés, et a fortiori pour cela, il est nécessaire de descendre dans le détail des choses. Mais mon plan ne me permettait pas de le faire. Et si je me suis efforcé d'accomplir pour moi seul ce travail comme préparation à ce petit livre que je viens d'écrire, un pareil effort n'est jamais couronné du succès que l'on désirait. Ainsi, je reconnais volontiers que j'ai tracé les divisions qui devraient être remplies, plutôt que je n'ai développé suffisamment l'ensemble. Toutefois, ce que j'ai dit suffira, je l'espère, à faire bien ressortir l'idée qui domine ce travail, à savoir que l'objet le plus important de l'État doit toujours être le développement des facultés des citoyens isolés dans leur individualité, que par suite, il doit permettre à son action de s'exercer seulement sur ce qu'ils ne peuvent pas se procurer à eux-mêmes, c'est-à-dire sur l'obtention de la sûreté. Et que c'est là le seul moyen vrai et indéfectible pour relier à l'amiable, par un lien solide et durable, deux choses qui paraissent se combattre entre elles, le but de l'État lui-même en bloc, et la somme de toutes les tendances des citoyens isolés. C'était du soin de l'État pour la sûreté du point de vue de la situation à donner aux personnes qui ne sont pas en pleine possession des forces naturelles ou du manmuri, de l'humanité, des mineurs et des insensés. Observation générale sur ce chapitre et les quatre précédents. Fin du chapitre 14.